Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, snobles.
Journal vivant, revue politique.
Construction,
obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imitait son silence.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, vous êtes sur Radio Canu et c'est le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique. Aujourd'hui dans les studios, je suis accompagnée de Julien Michel, bonjour.
Bonjour à tous.
Hélène Grange.
Bonjour.
Bonjour. Et Delphine Leroy.
Bonjour.
Voilà, alors aujourd'hui on vous propose une lecture de La chaise de paille de Sue Glover. C'est Hélène qui nous a préparé cette émission. Hélène, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Sue Glover ?
Oui, alors quelques mots à peine. Sue Glover est née en 43, c'est une de nos auteurs de théâtre contemporaine. Elle est écossaise, Sue Glover, et elle écrit beaucoup pour le théâtre, la télévision et le cinéma.
Très bien, peut-être qu'avant de commencer, on peut se faire déjà une petite écoute musicale pour se mettre dans le bain. À tout de suite.
Sur le plateau du théâtre de la Gamelle, la chaise de paille de Sue Glover, les personnages.
Isabelle, la femme du pasteur, 17 ans, originaire d'Édimbourg.
Anéas, le pasteur, bien plus âgé que sa femme, originaire d'Édimbourg.
Rachel, l'épouse inconvenante de Lord Grange, la quarantaine.
Una, une native de Lille, d'âge moyen, mais pas une femme âgée. Elle s'exprime la plupart du temps en anglais, mais parfois aussi en gaélique. Acte 1, scène 1. Tôt dans la soirée, lumière. Isabelle regarde autour d'elle, elle porte un paquet enveloppé de toile huilée. La malle est déjà dans la maison. Isabelle pose son paquet, ramasse la lampe et découvre la maison vide, ainsi que le lit dans le mur. Anéas entre.
Est-ce là le presbytère ?
Ils nous ont alloué cette maison pour l'été.
Elle ressemble à une étable.
C'en est une, aussi. En hiver, ils partagent leur toit avec leurs bêtes.
Ah, eh bien, je suis heureuse d'y venir en été.
Isabelle, c'est la plus belle maison de l'île. Et ils nous ont donné une de leurs marmites. Ils m'ont dit cela avec fierté. Je ne pense pas qu'ils en aient en abondance.
Ils n'ont pas davantage abondance de chaises, il me semble.
Non. Mais, non. Nous ferions mieux d'aller faire nos adieux à l'équipage. Le capitaine veut appareiller avant que le vent ne tourne. Autrement, il pourrait bien se retrouver pris au piège ici pendant quelque temps. Viendriez-vous ?
Serez-vous contrarié si je ne viens pas ? Je me sens comme en mer. Mes jambes ne sont plus habituées à la terre ferme. Ça roule et ça tangue.
Le capitaine Martin sera navré. Vous êtes sa passagère préférée. Il serait courtois de le remercier et de lui faire nos adieux.
Si je descendais au port avec vous maintenant, je pourrais oublier mon engagement et prier le capitaine de me ramener chez moi.
Elle est proche de fondre en larmes. Il a un geste vers elle, mais elle se tourne vers la malle et ne le voit pas.
Je prendrai soin de vos livres.
Anéas sort, Isabelle ouvre la malle, elle contient tout ce qu'ils ont apporté avec eux. Du fond du coffre, elle sort deux ou trois livres. Elle cherche autour d'elle un endroit où les poser et réalise qu'il n'y en a pas dans la pièce. Pendant un temps, elle tient les livres à la main, puis découragée les laisse retomber au fond de la malle.
Un lit de pierre, une chaise de paille. Je n'aurais jamais dû venir ici. Je n'aurais jamais dû venir.
Rachel entre. Elle porte une robe typique de l'île, mais elle s'est drapée les épaules d'un foulard traditionnel au lieu de le porter sur la tête. Isabelle ferme la malle et se rend compte de la présence de Rachel.
Comment allez-vous ? Je suis la femme du pasteur.
Ma chaise.
Je ne comprends pas.
Ne parlez-vous point anglais ?
Mais si, bien sûr.
Et vous ignorez ce qu'est une chaise ?
Mais si, je suis confuse, je n'avais pas...
Vous ne valez pas mieux que tous les autres. Cette chaise est à moi. Una n'avait pas le droit de l'emmener ici. Elle est folle. Ils sont tous fous ici.
Rachel prend la chaise.
Dans cet endroit répugnant et puant, c'est la seule chaise. Et elle m'appartient. Je suis de haute naissance et je suis la seule ici.
Rachel sort en emportant la chaise.
Père bien-aimé, Seigneur et Dieu de miséricorde, qui répandez toute bénédiction. Vous nous avez conduits ici sains et saufs, malgré des jours et des nuits de tempête en mer et un équipage d'ivrognes. Je vous prie de me ramener vivante à Édimbourg, aussi vite que possible. Faites que l'été passe vite, qu'aucun été auparavant. Faites que le mois d'août arrive bientôt, bientôt, je vous en prie. Je vous en prie.
Isabelle ! Isabelle !
Et je vous en prie, faites de moi une bonne épouse pour le pasteur.
Le pasteur entre, il tient un tabouret de bois à la main, il le pose au sol triomphalement.
Tenez, de la part du capitaine, avec ses meilleurs compliments. Je vous disais qu'il vous appréciait, Isabelle. Il vous adresse ses plus vifs regrets pour le mal de mer dont vous souffrez encore et vous fait ses adieux. L'esquif s'en retourne vers la goélette, à présent.
Des yeux, il cherche la chaise, incrédule, il regarde Isabelle.
Quelqu'un l'a emporté.
Quelqu'un ?
Une femme. Elle parlait anglais.
Ah.
Apparemment, c'est la seule chaise de l'île.
La seule ? Et le pasteur ne la mérite pas ?
Elle a juste dit « Je suis de haute naissance et les autres ici sont tous fous. »
Isabelle, ma chère, il s'agit juste de quelques mois. Le capitaine viendra nous chercher en août ou septembre.
Septembre ? Septembre !
Il reviendra dès qu'il le pourra. Lorsque le temps et les vents seront favorables, il n'est jamais simple d'accoster sur cette île. Souvent, cela demeure impossible.
Et que se passera-t-il si le temps ne le permet pas en septembre, encore moins qu'en août ? Que se passera-t-il alors ? Que ferons-nous ?
Nous venons juste d'arriver, Isabelle. Il n'est point temps déjà de préparer notre départ.
Si nous repartions, nous pouvons encore nous en retourner.
Vous êtes épuisée. Vous avez besoin de repos.
Du repos ? Avez-vous vu notre lit ? Ils dorment dans des tombeaux sur cette île, sur de la pierre froide, trempés comme un ruisseau. Ils sont tous fous ici, assurément. Sinon, pourquoi resteraient-ils ?
Ce n'est pas la folie qui nous a conduits ici, c'est le travail. Le travail de Dieu.
Oui, je sais.
Il y avait des années qu'un missionnaire n'était point venu sur Sainte-Kilda. Il y a beaucoup à faire.
Je sais cela, Anéas, je le sais.
Et déjà, vous souhaitez vous en retourner dans la maison de votre oncle ?
J'aurais dû écouter mon oncle et mes cousins. J'aurais dû vous attendre à Édimbourg. Je croyais pouvoir être utile. Mais que puis-je faire ici ? Je ne connais que deux ou trois phrases en galéïque, et en débarquant du bateau, je ne les ai point entendues. Je ne comprenais rien de ce qu'ils me disaient.
Mais ils vous accueillaient, chaleureusement. Ils sont surpris de voir le pasteur accompagné de sa femme.
Il serait encore plus surpris de savoir combien elle souhaite n'être point là.
Surpris. Et très curieux, Isabelle.
Je n'aurais jamais dû venir ici. C'est stupide. J'ai été stupide.
Mais j'avais insisté auprès de vous et de votre oncle. Cette île est... primitive. Vous recherchiez l'aventure.
Je ne connais rien. Je ne suis presque jamais sortie d'Édimbourg. Ici, je ne serai qu'un fardeau pour vous. Je ne pourrais même pas cuisiner... Pas avec ça !
Mais bien sûr que si. Sur Saint-Kilda, le feu est le même qu'ailleurs. Ils nous ont déjà offert un grand panier d'œufs et des oiseaux de mer.
Je n'ai jamais cuisiné d'oiseaux de mer. Jamais de toute ma vie.
Je suppose qu'ils se préparent comme n'importe quelle autre volaille. Cette femme dont vous parliez, celle qui parle anglais, elle vous aidera, cela est certain.
Oh, je ne le pense pas.
Vous êtes épuisée. Et vous avez été souffrante pendant tout le voyage. Cessez de pleurer. Isabelle ? Arrêtez. Vous vous sentirez mieux demain matin.
Oui, oui, cela est certain. Je ne suis pas moi-même. Je me sentirai mieux demain matin.
Muette, Isabelle se détourne et Anéas regarde le bateau dans la baie.
Ils envoient la grande vergue, déjà. Ils étaient résolus à faire voile avant que ne tourne le vent. Le temps menaçait lorsque je saluais le capitaine Martin.
Une voix s'élève au dehors, chantant les premières paroles d'un psaume en gaélique. D'autres voix s'y ajoutent.
Le soir tombe. Il fera bientôt nuit.
Le chant continue, une voix seule, puis accompagnée de plusieurs autres.
Connaissez-vous ce psaume ?
Elle ne le regarde pas, faiblement elle fait non de la tête.
Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse, toujours offert. Aussi, ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers ?
Ici, les montagnes sont bien au cœur des mers.
Venez, nous descendrons au port et ferons des prières pour le capitaine Martin et son équipage, afin qu'il voyage sereinement vers le sud.
Il s'interrompt, attendant qu'elle prenne sa main tendue. Elle prend sa main.
Et qu'il voyage sereinement pour nous ramener chez nous en août.
Ils sortent. Le psaume continue à mesure que la lumière baisse, puis encore une phrase ou deux après le noir.
Le jour suivant, un autre endroit dans l'île. Rachel entre, portant la petite chaise de paille. Elle la dépose et s'assied dessus. Una apparaît, tenant un bol de bois empli de bouillie. Sitôt que Rachel aperçoit Una, elle se lève, déplace sa chaise et se rassied.
Va-t'en.
Dieu vous garde, madame.
Va-t'en.
De nouveau, elle se lève et se déplace.
Va-t'en. Pars. Gueuse. Voleuse. Cette chaise est à moi.
Cela, je le sais.
Tendant le bol.
Et cela aussi est à vous, madame.
Je n'en veux pas de ton vomi de païenne. Des graines bouillies à la viande de goéland. Seigneur miséricordieux. Je ne buvais que du chocolat dans un bol de porcelaine. Et du brandy le soir. Autant que je voulais.
Una mange en cachette une pleine lampée de la bouillie. Rachel la voit et se rue sur elle.
Juste ça, jette ça.
Elle tente d'arracher le bol des mains de Una, qui essaie de s'y accrocher.
Non, je ne le jetterai pas. C'est préparé, c'est de la bonne nourriture, bonne. Quel gâchis. Vrai gâchis, c'est terrible.
Tu es une voleuse, Una McQueen. Tu es payée pour me nourrir. Tu es payée pour me garder. Et je le dirai au régisseur, la prochaine fois qu'il viendra. Je le dirai au visiteur, celui qui est venu sur la brigantine, le pasteur.
Isabelle est entrée. Rachel la voit, elle élève la voix.
Oui, et à la femme du pasteur aussi.
Je vous souhaite le bonjour.
Dieu vous garde, madame.
Elle fait une révérence de la tête et sourit à Isabelle.
J'espère que vous vous sentez mieux ce matin.
Oui, merci. Le pasteur m'a demandé de faire votre connaissance.
De faire votre connaissance ?
Je suis madame Seton, l'épouse du pasteur.
De faire votre connaissance ?
Elle se redresse.
Comme c'est gentil.
Elle tend la main comme si Isabelle devait l'embrasser.
Rachel Erskine de Grange. Lady Rachel.
Isabelle prend sa main et la serre courtoisement, embarrassée, à Una.
Tu peux partir.
Oh non, s'il vous plaît.
Va-t'en. Pars.
Una ramasse le bol et s'éloigne.
Je t'ai dit va-t'en. Pars. Pars.
Una s'éloigne davantage sur la petite butte et s'assied, tenant le bol de Rachel, à Isabelle.
Asseyez-vous. Pourquoi non? Ils m'ont donné cette servante, mais elle n'est qu'une indigène.
Rachel s'assied sur la chaise.
Asseyez-vous. Asseyez-vous.
Isabelle s'assied sur un rocher ou par terre.
Avez-vous fait bon voyage?
Oui, merci. Non. En fait, non. Ce n'était point agréable du tout. J'ai été souffrante tout le temps de la traversée. Très souffrante. Et très heureuse d'atteindre le terre-ferme.
Alors vous ne serez pas heureuse longtemps. Ils ne m'ont point laissé atteindre le bateau. J'avais un message pour le capitaine. Ce n'était pas le bateau du régisseur?
Non.
Le régisseur est un menteur. Tout ce qu'il dit est mensonge. Je n'ai pas de chocolat à vous offrir, madame.
S'étonne, Isabelle s'étonne.
Ni de thé non plus. Quel nécessaire avez-vous apporté à Hirta?
Peu de choses. Une pièce de lin pour en faire des bandages en cas de besoin. Car j'ai ouï dire que les habitants de l'île passent leur temps à grimper sur les rochers. Ainsi que quelques bouteilles de remède. De l'eau goudronnée, principalement.
De l'eau goudronnée?
De l'eau goudronnée de Norvège, la meilleure.
Le brandy aussi est un excellent remède. Avez-vous du brandy?
Nous n'en avons point apporté. Nous ne sommes venus qu'avec une seule malle.
Mon époux, Lord Grange, est souvent à Westminster, ces temps-ci, pour affaires d'État.
Ah, c'est très loin d'ici, Westminster.
Je n'ai jamais eu l'occasion de l'y accompagner. Lorsqu'il se trouve à Édimbourg, il demeure à Nidrewind. Nous, c'est là que nous demeurons, lorsque nous sommes en ville.
Et résidez-vous à Saint-Kilda depuis longtemps, madame?
Trop longtemps. Suffisamment pour réjouir le cœur de Simon Fraser. Connaissez-vous ce gros porc?
Non.
Simon Fraser, Lord Lovat. Vous avez entendu parler de lui, j'imagine?
Oui, j'ai entendu parler de lui.
Et d'où venez-vous, madame?
Seton, Isabelle Seton. Je viens d'Édimbourg. Et le pasteur aussi.
Je vous ai vu arriver avec le pasteur. Mais j'étais assez éloignée. Il a l'air d'un vieil homme.
Non, pas du tout.
Il marche comme un vieil homme.
Il n'est pas si âgé.
Mais il est bien plus âgé que vous.
J'ai 17 ans.
J'avais 15 ans lorsque je me suis mariée.
Qu'est-ce qui vous a conduit à...
Un mariage d'amour? C'est bien ainsi que l'on dit, n'est-ce pas? Et toujours avec un petit sourire de mépris. Comment cela s'est-il fait? Je me demande. Dans votre cas, je veux dire, je suppose qu'il a abusé de vous.
Anéas est un homme de Dieu. Vous parlez d'un ministre de l'Église, madame. Et puis, quelle femme voudrait épouser un homme qui aurait abusé d'elle, ou même qui aurait tenté?
Dans ce cas, quel homme pourrait-on épouser? Exception faite de quelques vieux ministres de l'Église.
Je ne sais si je puis parler à votre servante avant de me retirer. J'aimerais lui demander...
Depuis combien de temps êtes-vous mariés, le pasteur et vous?
10 jours. Nous avons fait voile depuis Leeds, juste quelques heures après notre mariage.
Et depuis 10 jours, vous avez le mal de mer?
C'était une traversée très orageuse.
Et vous étiez à prier et faire des lamentations sur la plage presque jusqu'à l'aube. Ainsi donc, vous ne connaissez rien encore. Non? De la chair? Vous n'êtes pas très jolie.
Non. Personne ne l'a jamais pensé.
À votre âge, j'étais ravissante. Lady Rachel, l'épouse du Seigneur et Maître. J'assistais à toutes les réceptions. Les bals, les dîners, les banquets d'huîtres. N'aimez-vous pas porter un masque pour fréquenter les bals et les dîners d'Édimbourg?
Je n'y suis jamais allée. Je ne suis jamais allée nulle part en dehors d'Édimbourg. Sauf ici, à Hirta.
Hirta. Ici, les souris sont grosses comme des rats. Les moutons chargent comme des buffles. C'est un nid puant comme l'enfer. Vous ne l'aimerez pas.
Nous n'y sommes que pour l'été. Nous n'y sommes que pour l'été.
Êtes-vous jacobite?
Non.
Et votre fiancé, le pasteur, l'est-il?
Non. Et vous?
Un regard comme un crachat, mais elle ne daigne pas répondre.
Je voulais faire passer un message au bateau.
Se référant à Una, toujours assise à l'écart.
C'est elle qui m'en a empêché. C'est mon geôlier.
Elle prend soin de vous.
Cette putain a volé tous mes bijoux.
Non, non, je suis sûre qu'elle ne ferait point cela.
Una se lève, elle a entendu Rachel et se prépare à répondre.
Bijoux, Marie, enfant. Tout ce que j'avais, je l'ai perdu. Vous savez, j'étais sur l'île de Erskine avant celle-ci. Alexander McDonagh, il possédait des terres. Il disait qu'il me laisserait partir. Je lui ai donné mes boucles d'oreilles et mes bagues. Mais au lieu de quoi, il m'a conduite ici. Il m'a conduite ici. J'étais dans la misère sur Erskine. Mais c'est pire encore ici.
Vous avez été conduite ici? Contre votre volonté? Mais par qui? Qui a fait cela?
Il est temps de vous en venir, madame. À présent, il faut partir et aller dîner.
Les domestiques de Lovat et MacLeod, je les ai reconnus à leur plaid. Je leur ai dit que je savais qui ils étaient. Ils ont ouvert la porte et se sont rués dans la chambre. J'ai hurlé au meurtre.
C'est assez parlé maintenant.
Il faut dîner, madame, il faut aller dormir.
Vous savez de quelle façon la reine d'Espagne fut emprisonnée? Et la princesse Sobieski enfermée dans un monastère? Et pour quelle raison? Pourtant, elles avaient des amis haut placés. Et parmi eux, rien de moins que le pape qui s'est interposé en leur faveur. Si des amis s'occupaient de moi... Si l'on s'occupait de moi... Moi aussi, je serais soulagée.
Vous ne devez pas importuner la femme du pasteur. Elle vient juste d'arriver. C'est encore une fille. Une jeune fille.
Ils doivent espérer que je sois morte à présent. Lovat et MacLeod. Édimbourg me croit morte à présent. Édimbourg, mon mari, mes enfants. Mais je suis vivante. Vous devez le leur dire. Je suis toujours vivante.
Una l'entraîne. Rachel la repousse.
Je vous prie... Madame...
Seton.
Oui, je vous prie, faites mes compliments au pasteur. Jusqu'au revoir.
Rachel et Una s'en vont, en portant la chaise. Soudain, Rachel s'arrête.
Una McQueen, tu veux me faire mourir de faim? Tu n'as encore rien donné à manger.
Il y a cette nourriture à manger, madame.
Isabelle les regarde partir, abasourdie.
Tu es une menteuse, fainéante, une traînée et une voleuse.
Anéas entre. Dieu vous garde. Dieu vous garde.
Dieu nous garde, en vérité.
J'ai croisé les mêmes habitants de l'île en moins de 10 minutes. Pourtant, chaque fois, ils m'ont salué d'un même « Dieu vous garde ». J'ai parlé avec tout le monde, aujourd'hui. Chaque homme, chaque femme et enfant. Sauf avec les hommes qui sont partis sur Borrowray. Ils ne rentreront que dans une semaine ou plus. Avez-vous vu Borrowray, Isabelle? Regardez. Regardez là-bas, ce sinistre monceau de rochers que Dieu a jeté dans l'océan. C'est cela l'île de Borrowray.
Des hommes vivent là-bas? Mais comment y abordent-ils?
Le premier à bondir sur le rocher depuis le bateau est acclamé comme un héros. Des ballades sont composées en son honneur.
Mais pourquoi vont-ils là-bas?
Ils y font paître des moutons. Mais il y a aussi des oiseaux, des centaines de milliers d'oiseaux. Ce sont de leurs œufs qu'ils nous ont offerts lorsque nous sommes arrivés.
Je n'avais jamais goûté aucun œuf comme cela jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Avez-vous fait la connaissance de beaucoup des femmes de l'île?
Vous disiez que vous aviez parlé à chacune.
Je leur ai parlé à toutes.
Mais pas à Lady Rachel. Elle dit être l'épouse d'un grand seigneur. Vous n'avez pas entendu parler d'elle?
Non. Que fait-elle ici?
Elle devient folle. Et je le deviendrais si j'avais été enlevée et conduite contre mon gré sur cette île.
Enlevée?
Oui. Ils la retiennent prisonnière ici.
Bien, mais Isabelle, si elle est folle...
Elle a été enlevée par les hommes de MacLeod. Elle m'a dit les avoir reconnus à leur plaid.
MacLeod est le seigneur de ces îles. Il est le roi ici, et le régisseur est son parent.
Anéas, sa famille la croit morte.
Ici, nous ne sommes pas à Édimbourg, Isabelle. Les choses sont arrangées autrement que dans cette partie du monde.
Mais elle a été enlevée à Édimbourg. Elle vient d'Édimbourg, comme nous. Elle demeurait à Nidrewind. Un jet de pierre de la maison de mon oncle.
Puisqu'elle est folle, comment pouvez-vous savoir ce qui est vrai dans ce qu'elle dit?
Elle ne pourrait pas inventer cela.
Peut-être pas.
Ni cet enlèvement non plus.
Quel est son nom?
Rachel Erskine de Grange, Lady Rachel. Elle m'effraie un peu. Beaucoup.
Irta semble une bien agréable prison. Une folle aurait dû être enfermée dans un asile, humide, oublié, où elle serait entourée d'une bonne cinquantaine d'autres fous à lui hurler dessus. Ici, elle jouit de l'air frais du Créateur, d'une église pour la prière, de voisins paisibles, d'eau et de nourriture.
Vous faites de cet endroit un paradis.
Cet endroit. Je n'ai jamais rien vu de tel que cet endroit. Aujourd'hui, quelques-uns des hommes m'ont conduit sur le sommet de Kanacher pour me montrer de quoi leur monde est fait, disait-il. Lorsque vous atteignez le sommet et que vous regardez par-dessus, il n'y a rien, rien, qu'un vide profond de centaines de brasses jusqu'à l'océan tout en bas. Les oiseaux flottent en dessous comme des étoiles, des cris stridents et une nuée blanche tout autour. Jamais, jamais je n'avais vu un tel endroit.
Anéas ?
Oui ?
À quoi ressemblent les caves à huîtres d'Édimbourg ?
Les caves à huîtres ?
Oui. Y êtes-vous déjà allé ? Qui fait-on ?
On y mange des huîtres.
Alors vous y êtes allé ?
Dans ces caves ? Certainement pas. Je me suis rendu à des soirées privées occasionnellement.
À quoi cela ressemble-t-il ?
Après le départ des dames, nous fumons et nos pipes et parlons de politique.
Mais avant le départ des dames, que se passe-t-il ? Y a-t-il de la musique et des danses ?
Oui, parfois.
Tout comme aux grandes fêtes ? Aux grandes fêtes d'Édimbourg ? Mon oncle désapprouve. Les festivités signifient de nouvelles robes, des jupons, des ballerines et des masques. Je ne suis jamais sortie masquée.
Et jamais vous ne le ferez, j'espère ?
Savez-vous danser, Anéas ?
Votre oncle n'apprécie guère la danse.
Mais vous ne réprouvez pas.
Je réprouve pour moi-même. Je ne suis pas un danseur très élégant.
Je connais la gigue et le quadrille. J'y suis très élégante, moi. Avec Elisabeth, nous nous y exercions dans la cuisine. Mais mon oncle ne l'a jamais su.
Non, il n'a jamais fait mention de cela, que vous sachiez danser. Il m'a dit que vous aviez appris à faire de la pâtisserie, ainsi qu'à filer le lin à Baptiste comme personne, et que vous étiez une douce mère pour vos plus jeunes cousins.
Les enfants me manquent.
Vous aurez... Nous aurons notre foyer à nous bientôt.
Pourrais-je aller danser lorsque nous serons rentrés à Édimbourg ?
Il n'en est nul besoin, Isabelle. Vous êtes une femme mariée à présent. Et puis, vous danserez bien assez tôt. Il y a 9 couples sur l'île qui attendent d'être unis par les nœuds du mariage.
9 mariages ?
Non, non, plaise à Dieu, je les marierai tous le même jour.
Quand ?
Nous devons attendre que vienne le régisseur. On l'espère d'un jour à l'autre maintenant.
Le régisseur ? Pourquoi ?
Parce que ces gens sont courtois. Ils souhaitent le convier. Et peut-être parce que son bateau apportera des victuailles qui agrémenteront les cérémonies.
Eh bien, je ne danserai pas avec le régisseur. Cela est certain.
Il est certain que vous danserez avec lui, s'il vous fait l'honneur de vous en prier.
Il retient cette femme prisonnière, cette Lady Rachel.
Le régisseur est un intermédiaire ici-bas. Et je suis le ministre de Dieu. Et vous êtes la femme de ce ministre. Et vous vous conduirez en accord avec cela.
Mais vous lui parlerez de Rachel, la prisonnière.
Il se peut que je l'interroge à son sujet.
Vous obtiendrez de lui qu'il la laisse sans retourner dans sa famille.
La communauté m'a envoyé ici à fin de mission.
Alors cette femme vous concerne, absolument.
Il se peut que son âme me concerne. Mais le pourquoi de sa présence ici, cela n'est aucunement de mon ressort.
Mais Anéas, elle...
Elle est dépend de MacLeod et du régisseur.
Il s'est mis à l'écart. Il s'assied et ouvre sa Bible. Isabelle le regarde faire, déçue. Exaspérée, la lumière baisse.
Scène 3. Quelques jours plus tard, soleil, calme. À mesure que monte la lumière, peut-être entend-on des oiseaux chanter. Una est affairée, elle tricote, cadre ou file. Isabelle entre.
Dieu vous garde, maîtresse Isabelle.
Dieu vous garde, Una.
Elle s'assied auprès d'elle.
Et que Dieu soit loué, car les hommes sont rentrés sains et saufs de Borray.
Ils ont tué nombre d'oiseaux et les ont empilés devant les maisons, comme des monceaux de neige. Et les œufs, de plein panier.
Oh, ils en ont attrapé bien plus que ça. Mais ils ont laissé le reste sur Borray. Les oiseaux et les œufs.
Una, les œufs qui nous ont été donnés lorsque nous sommes arrivés, il doit y en avoir des centaines dans le panier. Bien plus que nous ne pouvons en manger.
Mais vous resterez ici tout l'été, maîtresse. Vous mangerez tout cela avant que l'été soit passé.
Mais on ne peut pas garder les œufs aussi longtemps.
Mais gardez. Mais si, vous avez le panier pour les garder.
Non, j'ai idée que certains soient déjà gâtés.
Gâtés?
Pourris. Ils ne sont plus frais.
Mais vous ne pourriez pas manger les œufs tout frais pondus, pas vrai?
Comment devrions-nous les manger autrement?
Ils sont meilleurs après un temps.
Combien de temps?
Un temps bien long. Ils ont meilleur goût comme ça. Ce n'est pas comme ça à Édimbourg.
Non.
Non. Ce n'est point ainsi non plus sur Skye.
Skye? Vous êtes déjà allé sur Skye?
Quelques-uns d'entre nous sont allés là-bas avec Monsieur Buchan. Monsieur Buchan est le pasteur qui est venu ici il y a des années. Du temps de l'ancien régisseur. J'étais jeune alors. Maîtresse Buchan m'a enseigné l'anglais, car elle disait qu'elle ne pourrait jamais apprendre le gaélique.
Notre bateau a fait escale à Benbecula, mais nous n'avons pas accosté sur Skye.
C'est un endroit merveilleux, vaste. Et MacLeod est un seigneur merveilleux.
Vous l'avez vu?
Il porte des chaussures faites de cuir. Chaque jour. Et dans son château, il y a du tissu, du bon tissu de laine, pendu là, sur tous les murs, un énorme gâchis de tissu.
Et vous avez aimé Skye?
Ce n'est pas du tout comme ici, à Irta. Pourtant, une chose nous plaisait beaucoup.
Rien qu'une chose? Qu'est-ce que cela pouvait être?
Elle regarde ses propres chaussures.
Les chaussures, sans doute. Les chaussures faites de cuir.
Les chaussures... Mais à quoi elles servaient? Vous ne pouvez pas grimper sur les rochers avec des chaussures. Et si vous ne pouvez pas grimper, vous n'attrapez pas les oiseaux et pas les œufs non plus. On mourrait de faim si on portait des chaussures. On aurait des pieds comme maîtresse Buchan, doux et stupides. Doux comme l'oseille qui pousse à Connachair.
Alors, qu'est-ce que cela pouvait bien être?
Ces plantes qui grandissent très haut. Beaucoup plus belles que toutes les autres. Leurs feuilles s'allongent comme des ailes et murmurent dans le vent.
Des plantes? Des arbres? Vous voulez dire des arbres?
Des arbres? Oui, arbres. La chose la plus merveilleuse du monde, c'est lorsque beaucoup d'arbres poussent ensemble. Si vous marchez au milieu d'eux, alors ils penchent leurs ailes et ils vous attrapent comme pour vous retenir. J'étais effrayée de ça. Leurs esprits chantaient si tristement.
Non, Una, c'est simplement le vent qui siffle dans leurs branches.
Ici, nos esprits ne parlent jamais aussi fort, presque jamais. Et quand ça leur arrive, alors gare.
Les esprits n'existent pas, Una. Il n'y a qu'un seul Dieu.
Pas d'esprit dans les Lowlands.
Chagriné pour les Lowlanders.
Il y a nombre d'esprits chez nous. Vous nous avez vu répandre le lait sur la pierre chaque jour de sabbat, c'est pour Gruag, l'esprit, pour rendre la terre fertile.
Mais Dieu nous a enseigné...
Non, que... mais non, c'est une déesse la Gruagar, pas un dieu. Une fois même, elle a parlé à Donald McCrimmon, mais c'était dans le temps de l'ancien régisseur.
Avez-vous parlé de ces esprits au pasteur, Una?
Non, non, non. Le pasteur est un homme instruit. Il peut changer les marques noires sur le papier en mots et nous conter toutes les histoires de la Bible. Il sait pour les esprits.
Je suis sûre qu'il en a entendu parler, mais je pense tout...
Una ! Una ! Où es-tu donc ? Una !
Oh-chan, 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 oh-chan.
Un temps, elles écoutent. Attendent un autre appel. Silence religieux.
Savez-vous changer les marques noires sur le papier en mots, maîtresse Isabelle ?
Cela n'est pas réellement difficile. Je pourrais vous apprendre si vous le souhaitez.
Oh non, non. Je ne pourrai jamais apprendre ça. Même en 100 000 ans. Lady Rachel essaie parfois, mais elle n'a pas de papier à présent.
Pourquoi est-elle ici ?
Elle est l'hôte du seigneur MacLeod.
Mais elle ne désire pas être ici.
Nous non plus, nous ne désirons pas qu'elle soit ici. Mais elle est pareille au grand Skua, l'oiseau qui apporte du malheur, l'oiseau dont on ne peut se défaire.
Rachel entre, grotesque et tristement arrangée. Elle s'est changée et porte le jupon avec lequel elle est venue autrefois d'Édimbourg, chiffonné et troué, et qui laisse apparaître les jambes d'une façon presque gênante. Peut-être porte-t-elle un châle ou bien une écharpe confectionnée de plumes d'oiseaux de mer.
De la tourbe, Una. Encore de la tourbe pour le feu.
Dieu vous garde, madame. Les tourbes sont près de la porte. Un gros tas de tourbes.
Dieu vous garde, madame. Le pasteur sera de retour très bientôt. Il est en bas à parler aux hommes qui rentrent de Bowray.
Alors je l'attendrai.
S'il vous plaît.
Je dois la surveiller. Elle ne ferait rien de tout le jour si je la laissais faire.
Ochan, Ochan, Ochan.
Rachel faisant signe à Isabelle de s'approcher sur le ton de la confidence.
Je ne m'assierai pas si près. Il pue l'oiseau de mer.
Elle se renifle elle-même, anxieuse, puis arrange ses loques et prend un air raffiné.
De la bouillie de macareux, du fou de Bassan au gruau. Même leurs bières sont la pisse de mouettes.
Les mouettes ne pissent pas. Les visiteurs ont toujours une odeur étrange pour nous aussi. Oh, pas vous, maîtresse. Pas encore. Tous ceux qui vivent sur Irta doivent bientôt sentir comme Irta. Bien sûr, ils doivent. Mais ceux-là qui sentent le plus fort sont ceux-là qui sentent trop la bière. Elle a volé ma bière. Toute la bière que j'ai brassée la semaine dernière, elle a tout disparu. Elle a dormi toute la journée d'hier et tout ce matin d'aujourd'hui.
Menteuse.
Est-ce qu'elle n'a pas bu ? Elle est allée le cacher.
J'aimerais savoir ce qui est arrivé à mes bijoux.
Elle parle toujours de ses bijoux.
J'ai besoin d'un nouveau jupon.
Je ne sais pas pourquoi elle porte encore ses habits de la ville.
Parce que ce sont tous ceux que j'ai. Voilà pourquoi.
Nous lui donnons beaucoup de vêtements et du linge pour ses cheveux.
Savez-vous ce qu'ils utilisent ici pour attacher leurs loques ? Des hameçons. Dieu de l'enfer.
Le blasphème est un horrible péché. Puisse le Seigneur vous pardonner.
Un péché ? Un péché ? Cette île est couverte de péché. Elle est un immense péché du Seigneur Tout-Puissant.
Voilà, un blasphème horrible, horrible. Irta est le plus bel endroit que le Seigneur ait jamais créé.
Non ! Et comment le saurais-tu ?
Lorsque les oiseaux arrivent au printemps, c'est l'endroit le plus merveilleux du monde.
Oui, mais j'en suis sûre. Je le vois bien, Una.
Hypocrite.
Elle est encore pleine de bière.
Hypocrite. Jacobite.
Et elle a encore de la bière cachée. Je sais qu'elle en a.
Bridget ne m'a jamais privée de boisson. Ni de tourbe pour le feu non plus.
Les tourbes sont près de la porte.
Et Bridget savait chanter. Pas comme les beuglements que tu appelles des chansons. Bridget savait chanter, elle.
Binorio, Binori. J'ai du travail à faire. Elle aura laissé mourir le feu. Et il y a encore de la bière à brasser.
C'est ça. Pars. Va-t'en. Va-t'en. Inutile, voleuse, sorcière des montagnes. Va au diable. Va en enfer. Va à Irta.
Una est partie. Isabelle veut la suivre, mais lorsque Rachel parle de nouveau, Isabelle n'ose pas s'en aller.
Bridget ne m'a jamais privée de quoi que ce soit. Autant de vin de Bordeaux que je voulais. Et du brandy. Ah, le brandy, est-ce qu'il y a de meilleur ?
Qui est Bridget ?
Ce n'est pas ma plus belle jupe, mais elle a connu de meilleurs jours que la vôtre. La folle, croit-elle que je m'adresserai au pasteur affublé d'un jupon bleu et d'un hameçon ?
Pour être tout à fait honnête, je crois qu'il préférerait.
J'avais de si beaux cheveux. Lord Grange m'aimait pour mes cheveux. Vous savez, Bridget les peignait, pas les femmes de chambre. Elles, je ne l'aurais jamais laissé faire. Elles étaient toujours à se pavaner devant mon mari.
Elle rote bruyamment. Elle se donne un grand coup dans l'estomac.
Les macareux.
Dieu nous assiste ce qu'on peut faire la nourriture ici.
Qui est Bridget, madame ?
Ah, Bridget était ma nourrice. Bridget était la seule amie que j'ai jamais eue. Bridget était ma mère.
Votre mère ?
Elle était meilleure que ma mère. Elle était là, toujours. La nuit, je ne pouvais dormir sans Bridget.
Ma petite cousine Elisabeth a peur du noir. Elle non plus ne peut dormir seule.
Peur du noir. Peur de s'endormir. Mais si Bridget était là et une petite goutte de brandy, de quoi ai-je l'air ?
Je n'ai rien fait encore. Ils sont toujours tout emmêlés.
Je n'ai pas de miroir pour me regarder. N'avez-vous pas de miroir ?
Vous devez rester tranquille, madame.
Cette plaque-là, elle est arrangée ? Là, cette plaque ?
C'est un endroit où les cheveux ne poussent plus, juste un petit creux.
C'est ici que les hommes de Lovat me les ont arrachés du crâne. Ils m'ont arraché les dents et les cheveux. Ils avaient 6 ou 7 chevaux. Ils m'ont attaché derrière, Peter Fraser, sur un cheval attaché avec des draps dont je ne pouvais me défaire.
Quand était-ce, madame ?
En hiver. L'hiver où l'épidémie faisait rage à travers la ville. Les visages des gens étaient tout enflés et leurs gorges et leurs poitrines douloureuses. On disait que c'était la grippe.
L'hiver où ma tante est tombée malade et on est morte. 6 hivers de cela. Vous êtes ici depuis 6 ans ?
Au début, j'étais sur l'île de Esker. Alexander MacDonald disait qu'il me laisserait partir. Je lui avais donné mes bagues, mais il m'a conduite ici au lieu de cela.
Isabelle arrête de peigner de ses cheveux. Elle a pitié d'elle, lui prend la main, puis s'agenouille auprès d'elle.
Mais pourquoi vous ont-ils fait cela ? Pourquoi ?
Parce que ce sont tous des menteurs. Et je connais les mensonges.
Quels mensonges ?
Les mensonges jésuites, les espions jacobites.
Mais quels espions ? Qui ?
Toutes leurs confréries. Simon Fraser, Lord Lovat et Alexander Foster de Carsbrony. Et MacLeod de Muira Vondal. Et Peter Fraser, serf et laquais. Et Mar, le gentil Mar, mon traître de beau-frère.
Votre beau-frère ? Mais votre mari ne soupçonnait rien. Son propre frère vous a enlevé ?
Mon mari est réputé pour sa vertu. Un homme pieux, connu pour son inflexible dévotion. Savez-vous qu'il y avait un jour le jeune apprenti d'un coiffeur ? Mais je me souviens plus à présent. L'histoire est bien connue à Édimbourg.
Anéas est entrée. Les deux femmes ne l'ont pas vue.
Avez-vous des enfants ?
4 fils. 4 filles.
Mais ils doivent se demander où vous êtes. Oh, mais vous devez certainement leur manquer.
Des vipères. Tous des vipères. Je n'ai jamais désiré d'enfants. Je désirais mon maître et mon mari. Lorsque le premier vint au monde, un fils, Dieu du Christ, comme il voulait avoir des fils, la sage-femme est restée avec moi 2 jours, 3 nuits. Lui était à Londres.
C'est bien éloigné.
J'aurais donné l'enfant pour s'en voir revenir le mari. Me croit-il aveugle ? Je voyais la femme de chambre s'arrondir tous les mois, alors il la jette dehors et me dit que je suis folle. Lorsque j'apprends qu'il a une femme à Londres et qu'elle se nomme Lindsay, il dit à ses compagnons que je suis une menteuse et une catin. Mais lui, il a des femmes partout. Il...
Rachel s'interrompt brusquement à la vue d'Aenas. Il est rigide.
Le bonjour.
Lady Rachel, voici mon mari, Mr. Seton.
Serviteur, madame.
Passeur. Enchanté. Et comment va Édimbourg ?
Elle va fort bien.
Il y a déjà quelque temps que je n'y suis allée. J'en disais les raisons à votre épouse.
Et je le comprends.
Rachel est sur le point de parler, mais Anéas l'en empêche en poursuivant rapidement.
Mais je vous en prie, ne vous inquiétez point de me redire ces raisons, madame. Je suis persuadé que mon épouse m'en donnera connaissance. Et vous n'êtes pas vous-même, il me semble.
Rachel déconfite, pathétique.
Une inflexible dévotion.
Anéas.
J'espère que vous vous portez bien, Madame, le climat ici est rude. Vous portez-vous bien ?
Je ne me porte pas bien. Mais je ne suis pas encore très passée non plus. Grâce soit rendue à notre Créateur dans les cieux.
Vous n'étiez point à l'église hier. J'espère que vous vous porterez suffisamment bien pour faire vos dévotions avec nous ce soir. J'y conduirai la prière commune.
En gaélite, hein ?
Lady Rachel ne parle pas du tout le gaélique.
Je prierai avec vous en anglais, si jamais vous le souhaitez. Il doit y avoir un certain temps que vous avez récité le credo et les commandements à un ministre de l'église. Vous pouvez vous recueillir et prier dans la maison de Dieu, même si vous ne saisissez pas tout ce qui s'y dit. Mon épouse non plus n'entend pas encore le gaélique.
Pas de réponse.
N'avez-vous point de Bible ? J'en ai une autre avec moi que je puis vous offrir si vous le désirez.
Elle s'éloigne sur la butte.
Ce que me disent les habitants de l'île est-il exact ? Vous ne pratiquez jamais le culte en leur compagnie ?
Je rendrai grâce à Dieu quand il m'aura délivré de ce maudit rocher.
Isabelle, venez.
Il la fait passer devant lui et la suit pour sortir. Mais soudain, il s'arrête un instant, indécis, se demandant s'il ne doit pas continuer de parler à Rachel. Rachel, toujours sur la butte, lui tourne le dos. Il sort. Pendant que la lumière baisse, Rachel ne bouge pas. La voix d'un préchantre entonne la première phrase d'un psaume. Chaque phrase scandée par le préchantre est reprise en chœur par la congrégation. Le psaume continue jusqu'à la remontée de la lumière pour la scène suivante. Psaume se termine, la lumière remonte. Obscurité, la nuit, ou plus exactement l'aube. Anéas et Isabelle sont dans la maison. Elle dans sa chemise de nuit blanche, lui en chasuble. Il est assis sur le lit, perdu dans ses pensées. Elle a juste retiré ses bas et ses chaussures. Elle roule ses bas.
Demain, ou plutôt aujourd'hui, puisque l'aube est déjà là, je ne porterai pas mes bas, ni mes chaussures. Je crois que je les abandonnerai jusqu'à notre retour à Édimbourg. Des pieds stupides, doux comme l'oseille qui pousse à Connachair. Et vous, Anéas, continuerez-vous de porter vos chaussures ? Anéas ?
Des écailles. Des écailles.
Anéas ?
Avez-vous entendu ce que disait cet enfant hier soir, lorsque je lui enseignais le catéchisme ? Avez-vous entendu ce qu'il disait à propos de la création de l'homme ?
Je ne comprends pas le gaélique. Pratiquement rien en vérité. Aussi les prières m'ont-elles semblé très longues. Mais je commence à aimer les chants. Leur voix s'élève et enfle d'une telle façon, elles atteignent réellement les cieux.
Le petit garçon me disait que Dieu créa l'homme couvert d'écailles, des pieds à la tête, et que l'homme perdit cette bonne couverture par ses péchés. Et ne lui reste d'écailles à présent que sur ses doigts de pied et de main.
Des écailles seraient une couverture utile, sur ça.
Isabelle, c'est insensé. C'est un mensonge blasphématoire. Et tout cela, chaque âme sur cette île, tout cela prouvait en silence. Ils croient tous en
Dieu ne les blâmera pas pour si peu. Cela est certain.
Isabelle, la rédemption ne peut être atteinte que par la foi en la vérité. La sanctification de l'esprit est la foi en la vérité.
Lady Rachel n'était pas à l'église ce soir. Je l'ai aperçue au dehors. Elle se cachait dans l'ombre, nous regardait entrer. Pauvre femme.
Ce n'est pas une pauvre femme. C'est une créature méchante, infidèle et diabolique. Vous ne lui parlerez plus.
C'est ridicule.
C'est un ordre.
Sa maison est près du puits, je ne peux l'éviter. Et de plus, je ne le ferai pas. Je ne serai pas si cruelle.
Tout ce qui la concerne est impie et répugnant. Sa façon de parler, son apparence.
Mais ce n'est pas sa faute. Elle n'a pas d'autre toilette, pas de peigne, pas de miroir. Mais voyez seulement comme nous vivons tous ici.
Les femmes de l'île sont assez décemment vêtues.
Anéas, elle désirait s'habiller comme en ville uniquement pour faire votre connaissance. Elle voulait paraître convenable.
Convenable? Ce n'est qu'une catin. Vous ne lui adresserez plus la parole, Isabelle.
Mais c'est de cela qu'elle manque, quelqu'un à qui parler. Si elle est folle, c'est uniquement de solitude, Anéas. Et aussi parce qu'elle a été maltraitée.
Je pense ce que je dis, m'entendez-vous?
Vous enseignez le catéchisme à 80 paysans perdus au milieu de nulle part et vous ignoreriez la seule âme qui ait besoin de vous?
Mon travail est de convertir les indigènes et de les conduire au salut.
Les habitants de l'île prieraient et feraient des dévotions jusqu'à l'aube, qu'il y ait un pasteur ou non. Mais Lady Rachel se cache dans l'ombre dehors, effrayée.
Elle regarde vers le lit. Anéas s'est allongée, prêt à dormir.
Soufflez-la en lampe, Isabelle, je suis éreintée.
Je devrais mieux la laisser brûler.
Elle est debout, la lampe à la main, rebelle. Tranquillement rebelle, sachant qu'Anéas est probablement trop ensommeillée pour entendre.
Si nous devions creuser un trou comme les oiseaux de mer et nous y terrer pour dormir, ne pourrions-nous point cependant avoir une lumière auprès de nous? Je me cogne sans cesse la tête et les mains contre la pierre. Je suis couverte de contusions. Je m'accommoderai bien d'écailles, de douces écailles, comme celles d'un serpent.
Elle admire son corps couvert d'écailles imaginaires.
Je glisserai sur les rochers et je me fondrai dans la mer. M'aimerais-tu habillée d'écailles? Anéas, me tiendrais-tu serrée contre ton corps si nous avions été créés vierges et innocents, couverts d'écailles? Glisserais-tu dans la mer, autour de moi, avec moi?
Il y a un bruit. Rachel trébuche en entrant. Elle marmonne toute seule.
Feu de l'enfer et châtiment. Feu de l'enfer et châtiment. Au loin, la montagne du diable, il disait. Au loin, la montagne du diable, il disait.
Isabelle sort et cherche Rachel et sur la butte.
Au loin, quelle est cette montagne, elle disait. Triste, morne, blanche de neige et de glace. Au loin, la montagne du diable, il disait, où Rachel Erskine aura seule sa place.
Elle aperçoit Isabelle, l'appelle.
Sors de là, qui que tu sois. Viens et danse sur la montagne. Viens te joindre à la fête. Nous ferons le bal pour les bonnes gens d'Édimbourg. Toi et moi.
Silence, madame. Vous allez réveiller le pasteur. Vous réveillerez tout le village.
Mais tiens bien ta langue, mon amour très cher. Loin de toi, disperse toutes tes folies. Je te montrerai où poussent les blancs lys. Là, dans les abysses, au profond de la mer.
Chut! Retournez au lit. Vous ne devriez pas chanter si tôt le matin. Vous allez effrayer tous les enfants. Vous devriez être à dormir, comme eux.
Je n'ai jamais beaucoup dormi. Lord Grange et sa jeune épouse avaient l'habitude de danser jusqu'au lever du jour.
Le jour se lève déjà.
À la tienne, Isabella. Amène ton homme et danse un coup.
Du calme, madame, il faut vous calmer.
Mais tiens bien ta langue, mon amour très cher. Loin de toi, disperse toutes tes folies.
Allez-vous vous taire à la fin?
Isabelle voudrait retourner dans la maison, mais la voix de Rachel enfle encore et lui intime de rester.
Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu as envie de lui? Alors?
Elle parle de plus en plus fort.
Est-ce que tu as envie? Envie?
Chut!
Alors?
Plus fort.
Alors?
Oui! Oui! Parfois, je pense, oui.
Alors, lève ta chemise et fais-le! Fais-le!
Isabelle se détourne.
L'inflexible dévotion.
Non! Non, mais comment puis-je? Lever ma chemise quand il ne fait que parler de sanctification de l'esprit. Je le dégoûte.
Il ne t'a
encore goûté?
Je ne crois pas que je lui plaise. Je ne crois pas qu'il veuille de moi.
Demande-lui! Les hommes mentent avec moins de conviction lorsqu'ils sont nus.
Elle regarde Isabelle pendant un long moment.
Tu ne l'as jamais vue nue?
Isabelle ne répond pas.
Ni aucun homme?
Pas besoin de réponse.
Isabella, mon cher petit visage, tu as vécu dans un lit bien douillet.
Elle ne chante pas, mais elle récite en se moquant.
Coléreuse, coléreuse, elle devient, et noire devinrent ses yeux.
Oui, je suis en colère. Je n'ai pas élevé 6 des enfants de mon oncle pour rien. Si vous ne tenez pas votre langue, je vais...
Mariée depuis 2 semaines, tu devrais être nue au lit avec lui en ce moment. Séduite avec douceur? Délicieusement débauchée?
Plus fort.
Ou prise de force?
Taisez-vous! Taisez-vous, vous le réveillerez!
Un lit de pierre et de paille convient-il à un mariage d'amour?
Un lit, plutôt un ruisseau.
Et l'homme? Celui-là qui porte l'habit? Comment est-il au lit?
L'humidité sur la pierre y est plus épaisse qu'un édredon aux plumes.
Oui, mais lui, est-il gros? Lui?
La réponse ne vient pas.
Qu'est-ce que tu es? Une souris? Qu'est-ce qui coule en tes veines? De l'eau?
Isabelle est confuse et triste. Rachel la regarde, soudain à la pitié d'elle.
Demande-lui. Conduis-le au lit et demande-lui. Tourmente-le. Accoste-le. Frappe-le.
Exaspérée par le trouble et le désarroi d'Isabelle.
Mords-le.
Je ne pourrais pas.
Si, tu le pourrais. Ouf, tu pourrais faire semblant. T'ai-je jamais compté comment Lord Grange s'est fait mordre le cul? Oh, pas par moi, mais par une renarde que j'avais. Je l'avais eue toute petite. Elle s'était roulée dans les couvertures au fond du lit. Elle était assise là pour enfiler. Il était, pardon, assise là pour enfiler ses chaussettes et. Ainsi a-t-il payé pour ses beuveries et ses coucheries. Le noble cul s'est infecté. Il a fallu qu'il se cache chez lui, qu'il mange ses repas debout, près de l'âtre, sur le manteau de la cheminée, qu'il dorme sur le ventre. Et moi, je l'ai dit à tout le monde. Tout le monde, partout où j'allais. Coléreux, coléreux il devint, et noirs devinrent ses yeux, et bien fait pour les bâtards.
Una apparaît.
Dieu vous garde, maîtresse, Dieu vous garde, madame.
Eh bien quoi? Qu'y a-t-il là?
C'est le matin, madame.
Oui, Dieu merci.
Je me demandais où vous étiez. Elle ne voudra point dormir de la nuit.
Nuit noire, bestiale, gorgée de rêves. Bridget ne me quittait jamais la nuit.
C'est vous qui me quittez, madame. Elle voudra dormir le jour, mais jamais la nuit. Je la mettrai au lit bientôt. Voudrez-vous manger à présent?
Bridget me donnait du brandy pour la nuit. Même lorsque j'étais petite fille. Du brandy pour les démons dans ma tête. Ils ne sont point comme tes esprits, Una. Tu ne les apprivoises pas d'une petite tasse de lait sur une pierre. Vous savez qu'ici, ils ont un dieu qui vit dans une source.
Oh, il guérit beaucoup de maladies.
Il lui offre des présents, des bâtons, des pierres et des vieux bouts de chiffon. Ils sont tous fous ici.
C'est une eau sacrée, l'eau de Tobar Nam Bruage.
Un dieu dans l'eau et une fée dans chaque pierre.
Elle regarde dans le ciel, y voit quelque chose dans le lointain.
Et un démon, voyez dans le ciel.
Elle désigne l'oiseau du doigt. Toutes trois le regardent.
Quel oiseau est-ce là?
Le Skua! Il est venu en mars. Ils n'ont pu encore l'attraper.
Una le regarde avec haine. Rachel avec admiration.
Le mangez-vous, ce Skua?
Manger? Lorsque les hommes l'auront pris, nous lui arracherons les yeux et nous lui coudrons les ailes dans le dos. Et nous le jetterons à la mer. Pour qu'ainsi il dérive et meure d'une mort lente, lente, lente.
Isabelle, qui regarde l'oiseau, se tourne un instant vers Una, surprise par la haine dans sa voix.
C'est le serviteur du diable.
Elle regarde l'oiseau au lointain.
Il y a quelque chose par là-bas. Voyez, là, sur l'eau.
Une voile.
Un navire.
C'est le régisseur. Ce doit être le régisseur. Nous devons le dire aux autres. Nous aurons besoin d'aide pour aider le bateau à venir. Nous aurons besoin de tout le monde sur la plage pour aider.
Le régisseur arrive.
Una part en courant. Elle crie en gaélique. Rachel s'est figée à l'annonce de l'arrivée du régisseur. Apeurée, furieuse, Isabelle court dans la maison.
Anéas, le régisseur arrive, le régisseur est là.
La voix d'Una dans le lointain en gaélique. Peut-être d'autres voix en gaélique qui répondent. Anéas s'éveille lentement. Isabelle, sur le point de suivre Una, pense à prendre une robe. Toute à son excitation, elle se précipite sur le pas de la porte, avant même d'enfiler sa robe par-dessus sa chemise de nuit. Alors qu'elle va le faire, elle aperçoit Rachel sur la butte. Isabelle a oublié un instant la haine de Rachel pour le régisseur.
Il est ici, le régisseur. Nous devons l'aider pour le bateau.
Elle se sent un peu traîtresse. Anéas s'est redressée sur un coude, tout juste réveillée.
Le régisseur est une larve et un menteur. Tout ce qu'il dit est mensonge.
Noir.
Venez d'écouter le théâtre de la gamelle et la lecture d'une pièce de Sue Glover, La chaise de paille. Vous avez pu entendre uniquement le premier acte de cette pièce, puisque malheureusement notre temps à partie est terminé. Mais on vous propose de revenir très prochainement dans notre programmation pour vous lire le deuxième acte. On vous en fera annonce une semaine à l'avance pour que vous puissiez suivre la deuxième partie. Donc je remercie Julien Michel. Merci.
Merci à vous.
Hélène Grange qui nous a préparé l'émission.
Merci.
Et Delphine Leroy.
Merci.
Il était sur son char.
Amateur.
Propagande. Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs. Snobles.
Journal vivant. Revue politique.
Construction. Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade. Hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imitait son silence.